France Culture.
France Culture, entendez-vous l'écho? Aliette.
Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans Entendez-vous l'écho, une heure en direct pour parler d'économie sous toutes ses formes. Jeudi dernier, la décision du tribunal est tombée, Brandt, constructeur français d'électroménager, ne sera pas repris, c'est donc la liquidation pour ce groupe centenaire et un signal de plus des difficultés que traverse actuellement l'industrie française. On en parle en première partie d'émission, place ensuite à l'histoire de la pensée économique. Nous entamons cette semaine une série consacrée aux pensées féministes du travail avec pour commencer un retour sur le parcours et la vision de l'anarchiste Voltairine de Clare. Et à 14h55, nous retrouverons le fil de l'écho tiré par Alexandra Roulet. Vous avez le programme de cette émission préparée par Tina Young, réalisée et mise en onde par Sorge Leroy. C'est parti. Et comme chaque lundi, vous en avez l'habitude désormais, une parenthèse pour revenir sur l'actualité de la semaine passée. Il court, le budget. Mardi dernier, vous en avez sûrement entendu parler. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a été adopté à l'Assemblée nationale à une très courte majorité de 13 voix et après 106 heures de débat, un record depuis la création du PLFSS en 1996, nous apprend Le Monde. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. Le texte est reparti au Sénat qui lui l'a rejeté d'emblée vendredi matin et le texte va donc poursuivre son chemin et revenir demain à l'Assemblée nationale. Il faut dire que le Sénat a du pain sur la planche puisqu'il est aussi en train d'examiner le budget de l'État, le fameux PLF pour 2026 toujours. Et c'est dans ce cadre qu'il a approuvé jeudi le rétablissement des crédits au niveau de 2025 pour les centaines de radios associatives qui vivaient jusque-là dans la crainte d'un important coup de rabot au fonds de soutien à l'expression radiophonique locale. La décision a été prise dans un certain esprit de concorde. Tous les groupes ont voté pour, avec un avis favorable du gouvernement. Le fait est suffisamment rare pour être souligné, même si, attention, là encore, rien n'est joué. Les discussions vont encore se poursuivre. En termes de budget, il n'y a pas que celui de la Sécu ou de l'État qui compte. Le 10 décembre, mercredi dernier, donc, l'Université de Lille a annoncé prévoir un déficit de 44,9 millions d'euros dans son budget 2026. C'est plus du double de celui attendu cette année et un niveau jamais atteint, selon Régis Bordet, président de l'Université, là où tout est lié, finalement. C'est qu'une des raisons de ce déficit réside dans un ensemble de mesures qui ne sont pas compensées par l'État, contribution aux pensions, revalorisation du point d'indice des fonctionnaires, etc. Des assises sur le financement des universités devraient avoir lieu en janvier. De quoi peut-être apporter des réponses à la lettre envoyée mercredi aux parlementaires et signée par l'Académie des sciences, qui rappelle que financer la recherche en France, c'est faire un investissement stratégique. Chaque euro investi dans les universités de recherche génère un retour de 4 euros pour le pays. Tel est le calcul auquel s'est livrée l'Académie. Et employer un tel argument en dit long sur la conscience du langage à adopter pour faire entendre sa voix. D'investissement sur le très long terme, il est aussi question pour le groupe ADP qui a dévoilé mercredi son plan à 8,4 milliards d'euros pour moderniser les aéroports parisiens afin, je cite, de préserver la compétitivité de Paris-Charles de Gaulle et Orly face à la concurrence étrangère et dans la perspective de pouvoir accueillir 18 millions de passagers supplémentaires dans les bâtiments ainsi rénovés. L'occasion de rappeler que cette semaine a été marquée par un anniversaire, celui vendredi, des 10 ans de l'accord de Paris sur le climat. Avec un bilan pas franchement réjouissant, les 10 dernières années ont aussi été les plus chaudes jamais enregistrées. En guise de cadeau, le gouvernement a dévoilé ce jour-là sa stratégie nationale bas carbone, réduction des émissions brutes de gaz à effet de serre, de l'empreinte carbone du pays, mais aussi de la facture d'électricité des ménages. Beaucoup de choses sont contenues dans les 700 pages de ce document. Et là encore, tout est question d'investissement. 80 milliards d'euros supplémentaires par an d'ici à 2030 seront nécessaires pour atteindre l'objectif de décarbonation. On en revient là à la question du budget CQFD. En parlant d'objectifs, certains les ont atteints cette semaine, puisque dans la nuit de jeudi à vendredi, la cérémonie annuelle des Games Awards, qu'on pourrait décrire comme les Oscars du jeu vidéo, a eu lieu.
Ce renoir griffera clair, obscur, trouble de rature, trouble de rat.
n'êtes pas devenu fou comme moi à force d'entendre la bande originale de Clair Obscur Expédition 33, en revoici donc une petite dose, car ce jeu produit par le studio français Sandfall Interactive a raflé pas moins de 9 récompenses, dont celui du meilleur jeu vidéo de l'année, et a été vendu depuis sa sortie à plus de 5 millions de copies. La preuve, selon le New York Times, qui leur consacrait un article sorti jeudi dernier, que l'on peut développer des best-sellers sans avoir le budget des géants de cette industrie, puisque le budget de Clair Obscur s'élève à 10 millions d'euros, là où il a fallu 700 millions d'euros pour développer le dernier opus de Call of Duty Black Ops Cold War. D'une autre industrie, il a aussi été question cette semaine. Les chiffres sont tombés mercredi dernier, publiés par le journal Les Échos. 165 sites industriels sont menacés depuis septembre à travers toute la France, contre 120 il y a un an. C'est plus de 100 000 emplois industriels qui sont supprimés ou menacés. La CGT ne dit pas autre chose. De septembre 2023 au 5 décembre dernier, 483 plans de suppression d'emplois ont été recensés. Alors on va prendre le temps de comprendre ce qu'il s'est passé. Place à notre question d'actualité. L'industrie française est-elle devenue hors de contrôle ?
Sur la réindustrialisation de la France, mais la réalité, elle est là aujourd'hui.
Serge Grois, maire d'Orléans, le 11 décembre.
Elle est qu'on a une super boîte qui va couler. Cette boîte, elle était sauvable. Cette boîte, elle aurait dû tourner. Elle doit continuer d'exister, cette boîte. Merde, c'est la France ici, quoi. C'est plus qu'un gâchis. C'est une pétaudière. Et c'est un système qui ne fonctionne plus, qui est vérolé.
Je suis à la fois abasourdi par cette décision et très en colère.
Christophe Chailloux, sénateur socialiste du Loiret et ancien maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle, le 11 décembre.
On a un vrai souci aujourd'hui dans notre pays de gérer de façon cohérente ces dossiers-là. Je dis que dans notre pays, on a un vrai souci de mobiliser de moyens financiers, notamment lorsqu'on est confronté à ce type de situation. Moi, je regrette beaucoup que sur le dossier Brand, par exemple, les pouvoirs publics se sont largement investis, là je ne critique pas, hein, mais il manque quand même le secteur bancaire, il manque le secteur privé, quoi. À un moment donné, les pouvoirs publics ne peuvent pas se substituer à ce qui est aussi l'économie, quoi.
Si elle n'était pas sauvable, je ne serais pas battu comme on s'est battu en y allant au dernier moment à Orléans, en me rendant sur place, en rencontrant tout le monde, en essayant de convaincre les banques.
Sébastien Martin, ministre chargé de l'Industrie, le 12 décembre.
Oui, elle était sauvable. Maintenant, ce que je souhaite, c'est qu'on n'agisse pas à nouveau dans la précipitation. Il faut qu'on prenne le temps. D'ici la fin de l'année, on va se revoir avec les acteurs locaux pour essayer de rebâtir un projet, un autre projet peut-être, un projet sérieux, tout aussi sérieux que celui-ci, avec plus d'investisseurs privés sans doute aussi. Je ne laisse pas tomber le sujet Brandt.
Nadine Levrato et Olivier Luanci, bonjour et merci
bonjour.
D'être présents aujourd'hui. Nadine Levrato, vous êtes économiste et directrice de recherche au CNRS, directrice de la chaire Planification écologique et politiques industrielles et territoires, PEPIT pour l'acronyme. Olivier Luanci, vous êtes quant à vous professeur au Conservatoire national des arts et métiers. Votre dernier ouvrage s'intitule « Réindustrialiser le défi d'une génération » paru aux éditions Déviation l'année dernière. Vous avez supervisé, fut un temps, les activités de Saint-Gobain en Europe centrale et orientale. En 2019, vous avez lancé, à la demande du Premier ministre, l'initiative Territoires d'industrie. Et fin 2023, Bruno Le Maire et Roland Lescure vous ont confié une mission sur la réindustrialisation pour, je vous cite, dessiner les politiques industrielles françaises à l'horizon 2035. Olivier Luanci, on le comprend, ça fait un bout de temps que vous observez le monde de l'industrie, que vous en faites partie aussi. Lorsqu'on apprend qu'une industrie et qu'une entreprise comme Brandt risque que la liquidation puis est liquidée. Quelle est votre réaction ? Est-ce que vous vous dites que finalement c'est une forme de fatalité, que c'était un peu un échec assuré, ou est-ce qu'il y avait encore de l'espoir et vous vous dites que là on a loupé le coche ?
Alors je ne vais pas répondre tout de suite sur le cas Brandt directement, mais globalement un pays qui ne produit pas, c'est un pays qui n'est pas souverain, donc qui n'a pas la maîtrise de son destin. Un pays qui ne produit pas, c'est un pays qui se met une balle dans la jambe sur la question de la cohésion territoriale. On va le voir, parce que l'industrie, ça permet de créer de la richesse dans les territoires et pas seulement dans les métropoles où les services sont très très forts. Et puis enfin, un pays qui ne produit pas, c'est un pays qui ne maîtrise pas son empreinte environnementale, puisqu'elle l'a déléguée à d'autres qui produisent pour lui. Et donc, il n'y a pas de question d'avoir il n'y a pas de fatalité. Il y a même quelque chose d'inéluctable. Si on veut continuer à vivre nos valeurs, ailleurs, comme une nation au sein de l'Europe, nous devons refaire une industrie forte.
Mais Olivier Duhain, pour qu'on comprenne bien la situation dans laquelle on se trouve, est-ce qu'on peut qualifier la situation actuelle d'une forme de parenthèse? Est-ce que c'est une parenthèse dans la réindustrialisation qui a été entamée en 2018, selon les mots de Sébastien Martin dans un entretien donné aux Échos mercredi dernier? Ou est-ce que c'est la poursuite d'une très lente et très longue désindustrialisation?
Et on a décidé d'arrêter la désindustrialisation en 2009, donc c'est plus ancien. Depuis, on n'a pas vraiment réussi à le faire. Il y a eu deux, trois années que je qualifie de printemps de notre réindustrialisation, juste post-Covid, 21, 22, 23, où on a recommencé à créer de l'emploi industriel manufacturier, où on a recommencé à créer des usines en France. Pas suffisamment pour être sur une vraie trajectoire de réindustrialisation, mais on était dans les mêmes ordres de grandeur. Et puis, il faut le dire, aujourd'hui, nous sommes sous une forme de rechute. Nous sommes en phase de désindustrialisation. Réindustrialiser un pays comme le nôtre après 40 ans de politique post-industrialiste, c'est pas un long fleuve tranquille. Il y aura des phases plus positives, il y aura des phases négatives. Nous sommes devant une phase négative. Ce qui m'inquiète le plus, c'est le discours parfois un peu lénifiant qu'on a parce qu'on a réussi à faire 2-3 ans de réindustrialisation et on fait comme si ce qui se passait aujourd'hui dans nos territoires n'existait pas. Non, il faut qu'on se mette face à une réalité. Nous perdons des sites industriels, nous perdons des emplois industriels tous les mois, tous les trimestres en France. Aujourd'hui, il nous faut réagir.
Dans ce contexte-là, Nadine Levrato, est-ce qu'il est possible de ne pas être défaitiste lorsqu'on s'intéresse depuis plusieurs années, ce qui est votre cas, aux questions de politique industrielle? Est-ce qu'il est possible de rester optimiste?
Il y a deux choses dans votre question. La première, c'est celle de la place de l'industrie dans l'activité économique française. Et là, tout dépend de la référence dont on part. Entre 2017 et 2023, on a 300 000 emplois industriels qui sont créés en France, la moitié dans les métropoles, d'ailleurs. Il y a une industrialisation des métropoles qui s'est produite sur la période, ce qui a aggravé les déséquilibres territoriaux d'abord. En revanche, depuis, les chiffres sont plus mauvais. Vous les avez rappelés, des sites industriels qui ferment, qui se comptent en centaines, de nouvelles pertes d'emplois. Donc, sur ce plan-là, on peut être à la fois optimiste et pessimiste suivant l'endroit d'où on regarde. Ce qui est inquiétant, en revanche, c'est l'absence de politique industrielle récurrente. Et là, pour le coup, je suis, et je ne suis pas la seule, plutôt pessimiste parce que, d'une part, on a des politiques on va dire erratique, c'est-à-dire qui privilégie soit toujours les mêmes secteurs, soit des coups d'essai qui ne sont pas suivis d'actions dans le temps. Or, l'industrie, c'est du temps long et on a besoin de visibilité, de programmation pluriannuelle. Et là, la France a pris beaucoup de retard et a montré son incapacité, comme l'Europe d'ailleurs, à construire de la planification industrielle à long terme. Et on ne voit pas se dessiner, en dépit des effets d'annonce qui sont nombreux et réels, de plans structurels pour répondre aux défis que mentionnait Olivier Luanti.
Mais alors ça, c'est extrêmement intéressant, Nadine Levrato, puisque vous mentionnez finalement ce qu'est ou ce que pourrait être une politique industrielle française. Finalement, on a un peu deux cas d'école dans l'actualité aujourd'hui. On a le cas de Brandt, on en a parlé, donc 700 emplois supprimés. De l'autre, on a le cas de Vercors, start-up grenobloise, 570 salariés au compteur, qui a inauguré vendredi sa gigafactory de batteries électriques dans le port de Dunkerque. D'un côté, donc, une reprise qui n'a pas eu lieu faute de fonds récoltés. De l'autre, 16 banques commerciales engagées financièrement, 600 millions de prêts de la part de la Banque européenne d'investissement, 659 millions de subventions directes via le plan France 2030, 553 millions de prêts de BPI France et de la Caisse des territoires. Comment on explique une telle différence, Olivier Luanti? Qu'est-ce que ça nous dit de la vision de la politique industrielle française aujourd'hui?
Je pense que vous venez d'illustrer très très bien une erreur diagnostique qu'on a fait, mais qui est pas récente, qui a été, je dirais, magnifiée par France 2030, mais qui date de 2009. Si on veut se projeter dans l'avenir, oui, on a besoin de nouvelles filières avec des innovations de rupture sur la batterie, c'est le cas que vous avez cité, peut-être sur l'hydrogène et sur d'autres choses. On mentionnera peut-être aussi le dossier Insect sur l'agroalimentaire. Mais en même temps, En même temps, je dis bien, on a besoin d'un socle industriel qui permet à ces fleurons de demain ou d'après-demain de s'appuyer sur du savoir-faire, sur de la connaissance. Et depuis 15 ans, et de manière encore une fois exacerbée avec France 2030, nous avons misé sur le premier, qui représente un tiers de notre potentiel de réindustrialisation, si on parle en emploi ou en valeur ajoutée, tandis que les deux autres tiers sont dans le fait que nos PMI, nos ETI, nos brantes ancrées dans le territoire se développent, grandissent, se modernisent. Et donc, depuis 15 ans, l'une des raisons, à mon avis, fondamentales du fait que notre politique annoncée avec des lois, avec des budgets importants, avec un engagement politique au plus haut niveau de l'État français, c'est-à-dire des présidents de la République, ne porte pas ses effets, c'est que nous avons avancé à cloche-pied en pensant qu'on pouvait avancer uniquement avec des innovations de rupture. Et le constat qu'on doit faire, il est douloureux. Et là, je pense, comme Nadine Revato le mentionne, qu'on ne l'a pas fait au plus haut niveau. Il faut qu'on arrive à avancer sur les deux pieds. Oui, les innovations de rupture, c'est bien, mais nous avons besoin de consolider notre socle industriel sans lequel nous construisons, pour ces innovations de rupture, des châteaux sur du sable.
C'est un peu toute la rhétorique aussi de la raison pour laquelle on a beaucoup mis en avant l'idée de créer son entreprise à une certaine époque, et qu'aujourd'hui, on voit que le problème, c'est aussi celui de la reprise, et notamment dans les territoires. Nadine Revato, cette question du financement, elle est extrêmement importante. On l'entendait dans les extraits sonores du début de l'émission. Ce qui a bloqué avec Brandt, c'est très clairement le fait que les banques n'aient pas joué le jeu, pour reprendre les termes qui avaient été employés à ce moment-là, là où beaucoup d'acteurs publics avaient mis, eux, la main à la poche. La région Île-de-France, qui avait annoncé son intention de débloquer 1 million d'euros pour soutenir ce fameux projet de SCOP, le gouvernement, qui avait annoncé un soutien de l'État à hauteur de 5 millions d'euros, la région Centre-Val de Loire, elle, c'était 7 millions d'euros au total, la métropole d'Orléans, bref, il y avait tout un paquet de gens qui étaient quand même bien décidés à sauver cette entreprise. Et puis quoi ? Et puis les banques ne se sont pas portées volontaires. Est-ce qu'on en est là, Nadine Revato ?
C'est un vieux débat. Est-ce que les banques doivent être au service de l'économie ou est-ce qu'elles doivent être au service de leurs actionnaires ? Alors, au siècle dernier, la réponse avait été apportée avec une loi de nationalisation bancaire dans les années 80, portée par le programme d'Olivier Pastret. On en est revenu puisque quelques années après, elles étaient de nouveau privatisées. Et depuis, c'est un problème que l'on entend. Les banques ne jouent pas le jeu. Alors, d'une part, il n'y a pas que les banques qui ne jouent pas le jeu, puisque pour faire une entreprise, il faut des ressources internes, des capitaux propres, c'est-à-dire des investisseurs en fonds propres qui vont consolider le haut du bilan de l'entreprise. Qui sont ces investisseurs aujourd'hui ? Principalement des fonds d'investissement. Des fonds d'investissement qui ont une logique financière avec des objectifs souvent de rentabilité à court terme. Or, pour l'industrie, il faut du capital patient. On le sait, ce capital patient n'est pas apporté par ce type d'investisseurs, d'où l'intérêt qui peut être accordé aux entreprises de taille intermédiaire ou aux Mittelstand allemands avec des capitaux familiaux. Oui. Les banques interviennent après, avec de la dette à long terme et à moyen terme, ou avec des financements un petit peu plus complexes qui visent à stabiliser les investissements en actifs financiers ou corporels des entreprises. Et là, en effet, pour qu'il y ait intervention des banques, il faut des garanties. Ces garanties qui peuvent être apportées par BPI France, par exemple, par des hypothèques.
Qui étaient là, dans le cas de banques.
Voilà, la sécurisation de la dette. Et normalement, dans un monde idéal qu'on apprend aux étudiants, les ressources publiques sont des ressources d'appoint. Si l'État ou les régions deviennent l'investisseur principal, dans ce cas-là, il faut que la gouvernance des entreprises soit adaptée à cette structure du capital.
Olivier Huyn, si vous vouliez réagir, et je voudrais qu'on insiste effectivement sur ce rôle des fonds d'investissement. Il y a eu plusieurs cas aussi dans l'actualité qui ont souligné ce rôle majeur. On peut notamment souligner le cas du fonds d'investissement Greyboule, hein, dans ce cas-là, qui est un fonds d'investissement britannique, hein, et non pas français, qui était à la manœuvre depuis 2024 pour la scieriste Novasco, et ce qui n'a pas empêché que trois des quatre sites soient mis en liquidation. On n'a donc aucun contrôle sur ces fonds-là.
Alors, d'abord, un petit point, c'est que sur le cas Brandt, je vous rappelle qu'il y avait un repreneur qui a lâché l'affaire 15 jours ou 3 semaines avant cette annonce, et que 15 jours ou 3 semaines pour monter une SCOP et trouver un financement, c'est un peu court. Donc, ne soyons pas trop hâtifs dans le jugement qu'on va donner sur l'avenir de ce cas-là. En revanche, le point soulevé dans votre reportage est très très juste. Nous avons une carence de financement en haut de bilan, c'est-à-dire en injection soit en capital, soit en dette long terme en France. Et pour une raison assez simple, c'est que l'épargne des Français, elle est extrêmement disponible. 6 600 milliards d'euros d'épargne financière, elle n'est pas mobilisée à cette finalité dont on a fait une priorité politique depuis 15 ans. Je vous rappelle des déclarations de Nicolas Sarkozy, de Jean-Marc Ayrault, de Michel Barnier, qui l'a rappelé d'ailleurs dans le cas de Brandt, qui avait demandé la création d'un livret industrie, quelle que soit sa forme, permettant de collecter un peu d'épargne des Français et permettant de faire ces réinvestissements patients et lents, ils n'ont jamais vu le jour. Pour moi, c'est un mystère absolu. Je ne comprends pas comment on peut continuer à affirmer d'avoir une priorité politique depuis 15 ans sans mettre en place un outil comme celui-ci. Et puis finalement, donc en absence de ces fonds d'investissement français, qu'est-ce qu'on fait ? On se retourne vers des fonds d'investissement étrangers. Donc c'est l'exemple que vous avez cité de Grébul.
J'aurais pu citer Carla, il y a un fonds américain qui est devenu le premier investisseur en France
voilà,
en 2025.
Enfin,
la France est devenue sa première destination d'investissement en 2025.
Et donc sur Grébul, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il n'a pas tenu ses engagements d'investissement dans Novasco et donc le plan ne s'est pas passé comme il devait se passer et on se retrouve à la case départ au bout d'un an. Et vous avez parlé de Carla qui vient d'investir 500 millions d'euros dans Mecachrome, une superbe ETI française qui fait des pièces pour la défense. Et je reviens à ce que je disais au départ. Comment voulez-vous, dans ces cas-là, qu'on puisse affirmer une volonté de souveraineté si notre outil productif est financé par notre épargne peut-être, mais qui remonte dans des fonds internationaux et qui ensuite réinvestissent dans l'outil productif en France? Ça ne marche pas. Nous avons là l'un des sujets sur lesquels ce n'est pas une question de budget public, c'est une question de mobilisation de l'épargne des Français sur lesquels les gouvernements auraient pu faire des avancées. Et on ne voit rien, encore une fois, ça fait partie des mystères et aussi des opportunités que nous avons dans les mois ou dans les années à venir de mettre enfin ce type d'outil en place.
Nadine Levrateau, il y a la question de l'orientation de cette épargne, de cette mobilisation de l'épargne. Il y a la question aussi du rôle de l'État face à ces fameux fonds d'investissement. On citait le cas de Grébul, mais parce qu'il est assez emblématique, le 17 novembre dernier, le ministre délégué chargé de l'industrie, Sébastien Martin, a annoncé qu'il allait saisir les tribunaux parce qu'il estime que Grébul n'a pas mis sur la table ce à quoi il s'était engagé, c'est-à-dire mettre sur la table un certain montant de fonds. C'est tout ce que peut faire l'État, c'est cette espèce de rôle de voiture balai, de se dire bon, bah, là où vous dérivez par rapport à ce sur quoi on s'était mis d'accord, on va tenter d'intervenir. Qu'est-ce qu'on peut espérer de l'issue de ce genre de poursuite, Nadine Levrateau?
Alors moi j'attends de voir la requête qui sera déposée dans un tribunal, s'il y en a une. C'est un sujet, puisque en général les aides sont apportées sans conditionnalité ou alors avec des clauses suffisamment floues pour que l'actionnaire puisse invoquer la malchance ou le changement de conjoncture par rapport à aux engagements qui avaient été pris, ce qui est monnaie courante, hein, les exemples ne manquent pas et c'est ce qui a été mis en avant par Grébul. Bon, il faut quand même rappeler que Novasco avait fait l'objet de 4 LBO, rachat coup sur coup, ce qui avait complètement épuisé l'entreprise puisque les repreneurs demandent un retour sur investissement très, très rapide et que Grébul n'a pas du tout été exemplaire puisque l'État a mis 85 millions d'euros sur la table. Le fonds d'investissement s'était engagé à mettre 90, il en a mis 1,5 million. Donc, ces situations sont catastrophiques en termes d'image des politiques publiques et surtout, on l'avait vu également à plusieurs reprises dans le nord de la France parce que l'État montre son impuissance face à ces investisseurs qu'il appelle souvent à la rescousse pour des reprises d'entreprises et ce qu'il faut, c'est mettre en place des systèmes de conditionnement des aides sur divers sujets. Éco-conditionnalité, conditionnalité sur les investissements productifs, conditionnalité sur l'emploi, et le faire a priori pour que, en cas de non-exécution, il puisse effectivement y avoir un recours, un appel en consolidation de la part de la tête du groupe ou ce genre d'actions qui, en général, sont faites par les CSE et pas par l'État.
Donc il y a ce ménage, on va dire, à faire au niveau des aides aux entreprises. Je rappelle que début décembre, le haut commissaire au plan Clément Beaune s'est vu confier une mission pour tenter de, on va dire, y voir plus clair dans ce vaste paysage. Mais bon, on a vu récemment que la question était assez complexe. Et je précise juste aux auditeurs, aux auditrices, vous avez dit LBO, c'est pour Leverage Buyout. Voilà, pour l'acronyme, pour cette technique financière que vous venez de nous décrire, Nadine Levrato. Olivier Luancy, il y a une dernière question que je voulais aborder avec vous parce qu'elle est très concrète et très importante aussi. On a un peu envie de se demander, et en attendant, on fait quoi? Or, on le voit, on n'a pas cessé de les citer au cours de cette émission. Ce sont les acteurs des territoires qui viennent à la rescousse, soit financièrement, mais aussi socialement, politiquement. Est-ce qu'ils en ont les moyens? Est-ce que c'est vraiment aux collectivités, aux régions que d'agir pour la politique industrielle parce que ce sont tout simplement eux les plus proches du terrain? Est-ce que c'est comme ça que ça fonctionne in fine?
Alors, est-ce qu'ils sont légitimes à le faire? Oui, d'abord par la loi, puisque les régions ont la compétence du développement économique. Est-ce qu'ils sont légitimes en plus, au-delà de la loi et du droit, à le faire? Oui, encore plus, puisque comme je le disais, les deux tiers de notre potentiel de réindustrialisation se logent dans le tissu industriel existant. Et donc, c'est celui qui est proche des régions. Ont-ils les moyens? Non. Encore une fois, on a fait une décentralisation des compétences, mais pas des moyens. Si on regarde à peu près l'argent public, il y a un débat, mais si on regarde à peu près combien l'État dispose aujourd'hui pour accompagner tous les ans les entreprises, on parle de subventions, moi je retiens le chiffre de l'ordre de 100 milliards d'euros. Si on fait le cumul du développement économique de toutes les collectivités locales, on est entre 6 et 10 milliards d'euros. C'est-à-dire que vous avez une organisation qui serait responsable de un tiers de notre réindustrialisation, parce que les filières d'avenir, les gigafactories comme celle de Vector, oui, ça doit être porté au niveau national ou européen, qui a 90% des moyens pour un tiers du potentiel, et vous avez les collectivités locales qui sont en charge dans la compétence de la loi de deux tiers de notre potentiel de réindustrialisation, qui elles ont 10% des moyens. Encore une fois, on a délégué, transféré la compétence, mais pas les moyens. Nous avons besoin d'une décentralisation, immédiate.
Nadine Levrato, vous souhaitiez réagir très rapidement.
Oui, et là, on touche vraiment à un problème de cohérence de l'action de l'État. C'est-à-dire qu'il faut, comme on vient de le rappeler, que les collectivités locales participent au projet et au financement de la réindustrialisation. Parallèlement, on met en place une réforme de la fiscalité locale qui les prive encore davantage des quelques moyens financiers dont elles disposaient. C'est-à-dire que pour favoriser la compétitivité des entreprises, et ce n'est pas démontré, on a supprimé la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises qui servait à financer l'action des collectivités locales. Et là, on leur coupe les bras en matière d'autonomie de décision dans le domaine de la réindustrialisation.
Se pose donc en filigrane la question de l'efficacité de ces aides aux entreprises. Je sais qu'on n'est pas exactement le même point de vue sur cette question. Ce sera l'occasion peut-être d'un prochain débat où je serai très heureuse de vous recevoir. En attendant, un grand merci à tous les deux, Olivier Luancy et Nadine Levrato, d'avoir participé à cette émission. Et tout de suite, place à notre seconde partie d'émission. On ne quitte pas tout à fait les questions industrielles, mais on change d'époque et de pays, plongé dans les États-Unis de la fin du 19e siècle, telle que la théoricienne Voltairine de Cleyre l'a vécu et analysé.
France Culture, entendez-vous l'écho? Aliatovine.
Nous avons déclaré la guerre et nous ne nous satisferons de rien de moins que du fait que la maternité soit placée à l'abri de la nécessité d'un prix, celui de la dépendance. Cela signifie que nous avons l'intention d'être économiquement indépendantes, que nous nous considérons comme parfaitement capables de faire compétition aux hommes dans un champ libre et que lorsque notre bataille serait gagnée, car elle sera gagnée un jour, même si aucune d'entre nous ne vivra assez longtemps pour voir cette victoire, le corps de la femme sera le sien et les maris devront aller à la rencontre rencontre de leurs épouses sur un fier pied d'égalité. C'est en 1891 que l'anarchiste, théoricienne, oratrice aussi, penseuse et féministe voltairine de Clare prononce ces mots. Née en 1866, figure d'un anarchisme pragmatique fondé sur le vécu, cette rebelle parfaite, comme elle se décrivait elle-même, a construit jusqu'à sa mort en 1912 une analyse du monde du travail, de l'exploitation, de la classe ouvrière, mais aussi et surtout de celle des femmes par le capitalisme. Ces dernières sont en effet soumises à une double domination, celle du système économique qui prévaut aux États-Unis en cette fin de 19e siècle, et celle des hommes, et donc à un double travail. C'est donc de ces deux joues que la femme doit se libérer, et c'est donc au parcours et aux écrits de Voltairine de Clare qu'Entendez-vous l'écho consacre le premier épisode d'une série où l'on se penche sur ce que penser le travail en féministe veut dire, et nous allons le faire en compagnie d'une chercheuse qui lui a consacré un ouvrage récemment intitulé Voltairine de Clare, anarchisme, féminisme et amour libre, paru aux éditions de l'Atelier. Alice Béja, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférence en civilisation américaine à Sciences Po Lille et chercheuse au CERAPS, le Centre d'études et de recherche administrative, politique et sociale. Alors Alice Béja, pourquoi vouloir en chercheuse se pencher sur l'histoire de l'anarchisme et de certaines de ses figures, en l'occurrence celle de Voltairine de Clare, qui le dit elle-même, et vous le rappelez au tout début de votre ouvrage, pour elle l'anarchisme ne signifie pas uniquement le rejet de l'autorité, ni un nouveau système économique, mais une révision du principe de moralité. Il n'y a donc pas nécessairement de projet de réforme très concret, comme ont pu les formuler toute une mouvance socialiste, et encore moins un système économique nouveau. Alors pourquoi revenir à cette pensée aujourd'hui ?
Mais il me semble qu'il y a différentes facettes dans cette pensée, et je dirais que dans le regain d'intérêt que l'on constate aujourd'hui pour l'anarchisme dans ses modalités de manière générale, il a longtemps été criminalisé, réduit à des attentats, etc. Et aujourd'hui, on redécouvre, de nombreuses chercheuses et chercheurs redécouvrent cette pensée anarchiste dans sa remise en question radicale de toute forme d'autorité, qu'il s'agisse des autorités de l'Église, de l'État ou des hommes, en l'occurrence pour ce qu'il s'agit de Voltairine de Clare, mais également dans toute une série en fait de modalités d'action, c'est-à-dire la manière dont les anarchistes, ne croyant pas à l'institution, ne croyant pas aux partis politiques, à la représentation, etc., en fait créent des sortes de sociétés alternatives dans la manière dont elles et ils font fonctionner leur mouvement. Et je pense que c'est ça aussi qui crée de l'intérêt aujourd'hui, c'est-à-dire comment on s'organise concrètement pour vivre en accord avec ses principes, ce qui était un des grands mantras, disons, de Voltairine de Clare tout au long de sa vie.
Oui, finalement, il y a une dimension très opérationnelle, on pourrait le dire ainsi aussi dans la pensée des anarchistes et en particulier dans celle de Voltairine de Clare. D'ailleurs, elle le revendique, cette idée d'un anarchisme très pragmatique, notamment parce qu'elle fonde beaucoup sa pensée sur son vécu. Est-ce qu'il y a vraiment cette idée chez elle de donner des solutions concrètes à des problèmes concrets qui se posaient en tant que femme, en tant qu'anarchiste, en tant que féministe ? Est-ce que c'est en cela qu'elle est encore utile, entre plein de guillemets, évidemment, aujourd'hui, Alice Béja ?
Alors, je ne sais pas si je le formulerai en termes de solutions concrètes. Il ne s'agit pas de manuel du parfait ou de la parfaite anarchiste. Ce sur quoi elle insiste, et là-dessus, elle partage l'avis de nombre de ses camarades, tels que Élisée Reclus en France ou Pierre Kropotkine en Russie, c'est l'idée que la révolution est nécessairement contextuelle. C'est-à-dire que toute situation révolutionnaire advient dans un contexte socio-historique, socio-économique particulier. Et que donc, c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas de système à imposer. Il n'y a pas de société parfaite qui s'adapterait, qui ferait advenir la révolution en tout temps, en tout lieu. Et donc, c'est davantage sur... Elle a un texte qui s'appelle « Les événements sont les seuls véritables maîtres ». Donc, c'est-à-dire qu'en fait, le travail des militantes et des militants, c'est aussi de connaître leur contexte, pas seulement local, mais entre autres local, de le travailler et de réagir aussi à ce qui se passe, aux différents mouvements qui adviennent là où elles et ils sont situés.
Alors justement, venons-en à ce contexte qui est celui de Voltairine de Clare. Elle est née, je le disais en introduction, le 17 novembre 1866 dans le Michigan. Elle finit ses études en 1885, tout ça on l'apprend dans votre ouvrage. Elle se rapproche des idées des anarchistes en 1888. À cette époque-là, pour qu'on comprenne bien, Alice Béja, que représente l'anarchisme dans le paysage intellectuel américain? C'est un mouvement tout de même relativement récent. Est-ce qu'il s'agit d'une marge ou quand même d'un mouvement qui a une certaine importance?
Alors, c'est un mouvement qui est extrêmement marginal par le nombre des personnes qui y adhèrent, par son poids dans le paysage aussi bien intellectuel que politique. Cependant, vous faites bien de mentionner la fin des années 1880, puisque il y a dans les années 1886-1887 un événement marquant qui va donner à l'anarchisme un retentissement non seulement aux États-Unis mais mondial, qui est l'affaire de Haymarket, sur laquelle je reviens simplement brièvement. C'est dans le cadre du grand mouvement social pour la journée de 8 heures aux États-Unis, qui est mené par les syndicats, mais également par les socialistes et par les anarchistes, dans le contexte d'une grève à Chicago qui est suivie de manifestations et d'une répression violente par la police. Une bombe éclate sur la place de Haymarket à Chicago, et les anarchistes, des militants anarchistes, sont accusés d'avoir posé cette bombe. 5 d'entre eux, je vous passe les détails du procès, seront condamnés à mort, 4 d'entre eux finalement exécutés, ceux qu'on appellera les martyrs de Haymarket. Et ça, ça donne un retentissement à l'anarchisme. Il y a des grèves et des manifestations en solidarité qui se déroulent dans le monde entier, mais également un renforcement en fait de l'idée selon laquelle l'anarchisme serait une idéologie violente de poseurs de bombes, bien évidemment en écho aux nombreux attentats qui ont lieu en Europe à la même période et qui visent des chefs d'État et de gouvernement.
Vous dites dans votre ouvrage qu'il s'agit tout de même d'un mouvement minoritaire important. J'ai trouvé cette expression intéressante. C'est tout de même qu'il prend, en tout cas auprès d'une certaine population, qui devient de plus en plus importante aussi aux États-Unis. Et là, Alice Béja, il faut parler du contexte encore plus global, qui est celui de l'industrialisation que connaît le pays à ce moment-là. Or, on le sait, aux États-Unis, cette industrialisation, elle prend quand même des formes très spécifiques. Et c'est peut-être là aussi où il faut replacer cette mouvance anarchiste dans son contexte. C'est qu'il y a aussi une dimension de l'exploitation qui est très réelle, là encore, qui est très concrète et qui est donc est vécue. Qu'est-ce qui se passe très concrètement au niveau de la structure industrielle aux États-Unis à ce moment-là?
Donc on est vraiment dans ce dernier tiers du 19e siècle, hein, ce qui a été appelé de manière satirique par Mark Twain l'âge d'or, enfin the Gilded Age, et donc dans une période de consolidation du capitalisme industriel qui se consolide autour de d'oligopoles ou de monopoles dans les grandes industries que sont l'acier, le rail, etc. Et des conditions de travail qui sont extrêmement difficiles dans les usines, pour les ouvrières et les ouvriers, avec un nombre exponentiel d'accidents du travail, pas de protection sociale. Conjugué à cela, une vague migratoire extrêmement importante, des millions de personnes arrivent, en particulier d'Europe du Sud, notamment d'Italie, mais également d'Europe de l'Est, de l'Empire russe, et notamment des juifs et juives de l'Empire russe qui fuient les pogroms, et dont certaines et certains vont devenir des figures de l'anarchisme états-unien, la plus connue étant sans doute Emma Goldman. Et donc, en fait, on a une situation de très grande violence sociale, de mouvements sociaux très importants, de grèves très importantes, qui sont extrêmement violemment réprimées par les autorités, mais également par les milices privées, dont la plus connue est sans doute la milice Pinkerton, où je pense qu'en France, les gens qui ont lu Lucky Luke connaissent ces personnages.
Et c'est là où on arrive à un point que je trouve intéressant, et je voulais avoir votre regard dessus, c'est qu'on le sait, ce contexte d'industrialisation et de monopole capitaliste se situe quand même dans un contexte théorique, intellectuel, où c'est clairement le laisser-faire qui prévaut. Est-ce que les anarchistes ont une pensée de ce laisser-faire? Est-ce qu'ils s'inscrivent en faux vis-à-vis de ce laisser-faire économique, sachant que eux-mêmes, vous le disiez en tout début d'émission, ne développent pas du tout une pensée des institutions, de la régulation, etc. Comment se positionnent-ils par rapport à ce laisser-faire qui produit toutes les difficultés, toute la misère que vous venez d'évoquer, Alice Béja?
Alors là, il faut bien voir qu'il y a aussi une grande diversité dans le mouvement anarchiste et que, bon, pour simplifier, on va dire qu'il y a plus que deux tendances, mais on va simplifier en deux grandes tendances. Donc vous avez d'un côté les anarchistes dits individualistes qui, aux États-Unis, sont représentés par la figure de Benjamin Tucker, qui est à la tête d'un des principaux périodiques anarchistes de l'époque, Liberty, et qui ne sont pas nécessairement en désaccord avec certains principes liés à la compétition, par exemple, puisque ce qui prime avant tout, c'est la souveraineté et la liberté individuelle. À l'autre bout du champ, et c'est un courant qui se renforce à la fin du 19e, notamment sous l'effet de la vague migratoire que j'ai mentionnée, se situent celles et ceux qu'on va appeler les anarchistes communistes, même si aujourd'hui ça peut paraître un petit peu étonnant comme association, qui sont donc pas pour un État prolétaire ou un parti qui représenterait le prolétariat, mais bien pour une expropriation, donc pour l'abolition de la propriété privée, au profit donc d'une restitution en fait des outils de production à la classe ouvrière, mais dans la perspective d'avoir des communautés autonomes qui s'autogèrent, avec l'idée que la mécanisation de l'industrie permet d'augmenter la productivité, donc de réduire le temps de travail et donc de mieux répartir celui-ci et donc de faire en sorte que les personnes puissent travailler selon leurs capacités.
Et ce qui est intéressant, c'est que là, on en vient directement à la figure de Voltairine de Cleyre. Elle va naviguer, on va dire, de cet anarchisme individualiste à cet anarchisme communiste. C'est quelque chose qui est assez connu d'elle, c'est qu'elle refuse aussi l'idée d'une étiquette trop apposée, trop collée sur son front. Avant cela, elle a été proche aussi d'un autre mouvement, celui des libres penseurs. Pour faire le point peut-être aussi sur sa vision de la liberté qui, vous le disiez, est très importante aussi dans ces milieux anarchiques, je vous propose d'écouter un extrait justement d'un article qu'elle publie en 1890 dans le journal Liberty, intitulé « The Economic Tendency of Free Thought », autrement dit « La tendance économique de la libre pensée » en bon français, article dans lequel elle formule clairement sa pensée.
Arpenter la 5e avenue à New York par une chaude journée d'été, au milieu des magnifiques résidences de riches. Entendez l'écho de vos pas dans les rues vides de ces quartiers. Regardez ce gaspillage d'espace, d'ameublement, de tenture, d'élégance. Tout cela est inutile. Puis, descendez vers le centre-ville. Promenez-vous parmi les demeures de ceux qui produisent toute cette inutile splendeur. Vous trouverez 6 familles vivant dans 5 pièces, la 6e vivant dans la cave. L'espace ici n'est pas gaspillé pour cette vermine humaine vivant coude à coude dans ses étouffants réduits. Il n'y a pas de gaspillage d'ameublement, ils s'asseyent sur le sol. Aucun écho dû au vide, pas de splendeur inutile. Non. Mais l'épuisement, l'étranglement et la suffocation d'une vie misérable. Manque de vitalité là, pénurie d'espace pour eux ici, c'est cela l'ordre social. L'hiver prochain, lorsque la production annuelle de charbon aura été extraite, lorsque les mineurs vont serrer les poings de leur rage impuissante, quand le charbon restera dans la mine inutilisée, écoutez le cri s'élevant des prairies glaciales de l'Ouest, pendant que le prix de ce produit de base, dont l'offre est insuffisante, montera de 8 à 9 à 10 à 11 dollars la tonne. Les poches des malfaiteurs s'empliront et les cimetières aussi. Moralisez alors sur la préservation de l'ordre social.
Alice Béja, vous le dites dans votre ouvrage, Voltairine de Cleyre reproche aux libres penseurs et penseuses dont elle est proche dans un premier temps de se focaliser davantage sur la question religieuse au détriment de la question économique. Et on le voit dans cet extrait, ses préoccupations sont très matérielles, sont donc très économiques. Elle parle du prix de la tonne de charbon, c'est quand même quelque chose de très concret. Pourquoi cette thématique a une importance aussi forte pour elle? Est-ce qu'elle a une formation spécifique en économie? Qu'est-ce qui fait qu'elle a un attrait quand même pour la question économique, en plus bien sûr des autres, mais qu'elle juge important aussi de la remettre au centre d'une certaine réflexion?
Alors, elle n'a absolument pas de formation en économie. Voltairine de Cleyre n'a pas fait d'études supérieures. Elle a été scolarisée dans un couvent, ce qui explique aussi que l'origine, disons, de sa révolte et l'origine de son engagement politique, c'est véritablement le refus de la religion. Donc son premier refus d'autorité, disons, c'est celui des religions instituées, et c'est pour ça qu'elle se rapproche dans un premier temps, dans les tout débuts de son militantisme, donc du mouvement pour la libre pensée, qui milite justement contre l'influence des églises, notamment sur l'éducation des enfants. Et donc elle parle aussi de ça à la première personne, ayant elle-même était soumise à cette éducation. Néanmoins, elle se crée aussi une culture politique, économique, et donc elle lit Marx, elle lit Spencer, elle lit Darwin, et donc elle est nourrie en fait par tout ce contexte intellectuel de son époque qui met en fait au cœur de ses préoccupations les conditions matérielles de vie des pauvres, des personnes pauvres. Et ça, c'est quelque chose, c'est une préoccupation qu'elle maintient tout au long de sa vie. et on voit dans l'extrait que vous avez passé, comme vous le dites, la dimension très matérielle, mais la dimension très empathique aussi de son écriture, c'est-à-dire que même lorsqu'elle traite de questions assez abstraites dans certains de ses discours, donc voilà, les conditions de vie, la manière dont l'industrie se développe, le système capitaliste, etc.
Des questions monétaires également aussi.
Voilà, très souvent, elle réintroduit, que ce soit dans ses discours, mais encore plus, bien évidemment, dans les poèmes et les nouvelles qu'elle publie sur ces mêmes sujets. Ce qui est intéressant chez elle, c'est qu'elle a une diversité d'écriture, mais pour aborder, en vérité, toujours les mêmes questions, et singulièrement cette question des conditions sociales d'existence. Elle-même vient d'une famille relativement pauvre, alors pas de la grande pauvreté, et elle vivra toute sa vie dans une certaine forme de précarité économique. Donc ce sont des conditions... Bien sûr, elle n'est pas soumise aux conditions de travail dans les usines, etc. Mais en tout cas, la précarité et la pauvreté, elle les vit aussi en première personne.
Elle se tourne donc vers les milieux anarchistes pour répondre finalement à cette demande aussi intellectuelle. Est-ce qu'elle aurait eu le choix finalement, Voltairine de Cleyre, si à partir du moment où, à cette époque-là, toute fin du 19e siècle aux États-Unis, on s'intéresse à la question ouvrière, on la pense aussi en féministe, on va y venir. Est-ce qu'il y avait d'autres mouvements vers lesquels elle aurait pu se tourner qui prenaient en charge cette question également ?
Bien entendu, il y a la fin du 19e est vraiment un moment aux États-Unis de ferment de pensée économique et sociale, et donc il y a toute une diversité, et il faut bien voir, on parlait tout à l'heure des étiquettes, il faut bien voir que malgré tout ces étiquettes demeurent assez flottantes, hein. Certes, c'est vraiment bon, c'est le moment où l'anarchisme et le socialisme se distinguent, hein, après l'exclusion des anarchistes de l'international, mais néanmoins quand on lit les textes de l'époque socialistes, en fait ça peut renvoyer aussi bien à des anarchistes qu'à des socialistes au sens plus institutionnel du terme. Donc il y a bien évidemment le mouvement socialiste qui se développe à l'époque, et le Parti socialiste des États-Unis est créé au tout début du XXe siècle. Il y a également toute une série de mouvements plus spécifiquement états-uniens, et notamment le populisme, qui est un mouvement de gauche, hein, qui se développe dans la deuxième moitié du XIXe, notamment à travers une question de solidarité entre les fermiers et les ouvriers, ouvrières. Et puis, il y a d'autres mouvements, comme le mouvement de Henri Georges sur la single tax. Donc il y a toute une diversité, disons, de doctrines économiques, dont d'ailleurs les anarchistes vont aussi s'inspirer en partie, et puis toutes ces personnes débattent les unes avec les autres. Donc le choix de l'anarchisme, c'est un choix vraiment radical. Et c'est un choix qui vous place en position de très grande marginalité qui vous place aussi à la merci de la répression. Non pas que les autres mouvements n'aient pas été réprimés, bien entendu, mais les anarchistes sont particulièrement criminalisés à cette période-là. Donc c'est un choix qui n'est pas anodin, mais qui, pour de Cleyre, est logique. Et c'est ce qu'elle explique dans l'article que vous citez. Elle dit, en fait, si on remet en cause l'autorité de l'Église, logiquement, les libres penseurs et penseuses devraient en arriver à remettre en cause également l'autorité de l'État, ce qu'elle et ils ne font pas.
Et ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cet article, elle met en avant une notion que j'ai trouvée assez intéressante parce que je l'ai rarement vue, je l'ai rarement lue aussi exposée comme ça. C'est cette idée, alors, de la liberté quelque part, mais aussi de l'intérêt personnel. Elle dit, ne voyez-vous pas que la véritable économie doit se fonder sur la liberté, que ce soit en pensée ou en action. Ce n'est pas l'esclavage qui a réuni les humains dans l'effort collectif. Ce n'est pas l'esclavage qui a produit les moyens de transport, de communication, de production et d'échange. Toutes les inventions économiques ou qui devraient être économiques de notre civilisation, ce n'est pas le gouvernement non plus, c'est l'intérêt personnel. Qu'est-ce que ça nous dit ce texte-là, cette vision de l'intérêt personnel ? On en revient presque à une pensée très libérale, ce qu'on évoquait aussi un peu en début d'émission. Mais il y a cette idée que finalement, en s'occupant des institutions, on n'arrivera jamais à comprendre le vrai problème qui est celui de l'intérêt personnel, a fortiori celui des capitalistes, Alice Béja.
Oui, alors là, comme je disais, on est vraiment au tout début de son engagement, donc où elle est encore plutôt assez proche des individualistes. Par ailleurs, je me permettrais d'être tout à fait en désaccord avec son interprétation de l'esclavage. Ça, c'est un grand sujet.
C'est
les anarchistes et la question de l'esclavage, c'est quelque chose qu'elle et ils, pour le coup, ont très peu pensé dans la spécificité surtout états-unienne, puisque aux États-Unis, de fait, le système économique est fondé sur l'esclavage et sur son héritage dans le sillage de la fin de la guerre civile en 1865. Mais oui, enfin, en tout cas, par rapport à l'autorité de l'État, c'est ça qu'elle met en avant. C'est-à-dire que l'anarchisme, en tout cas, pardon, tel qu'elle le comprend à l'époque, repose sur une grande confiance, en fait, dans la nature humaine et dans la capacité des personnes à savoir ce qui est le mieux pour elles. Et donc dans cette idée aussi que si on est dans une logique d'intérêt personnel, in fine, l'intérêt collectif va en découler. Ce sur quoi elle va quand même évoluer tout au long de sa vie, et notamment en matière économique.
Et donc elle se tourne davantage, nous l'avons dit, vers cet anarchisme communiste, sans pour autant s'en revendiquer de façon absolument, on va dire, unilatérale. Et puis toujours dans la logique selon laquelle le vécu influence beaucoup sa pensée et ses positionnements plus théoriques aussi, Voltairine de Clare se penche sur ce qu'on appelait alors la question des femmes, entre guillemets, pour bien comprendre sa pensée telle qu'elle se développe, et ce qui est aussi une pensée du travail en féministe. Je vous propose d'écouter un autre extrait, c'est celui d'un texte publié en 1894 intitulé « L'égalité politique de la femme ».
Le fils de féodalisme, capitalisme, piétine de ses gros sabots le cœur de la femme et en fait jaillir le sang. Elle qui n'est plus la reine du foyer, mais plutôt l'outil qui procure de nouveaux profits. La femme doit devenir indépendante, qu'elle le veuille ou non. Les salaires baissent, les hommes ne peuvent plus pourvoir aux besoins de leur famille, et les femmes doivent travailler ou endurer la famine. Que cela arrive. Elle n'est plus l'animal protégé, elle devient un individu. Elle souffre et rêve de droits. Elle revendique d'autres égards que ceux rattachés à l'état d'épouse, de mère, de sœur, de fille. Elle se tient seule. Elle a reconnu sa force et de cette puissance se nourrissent ses revendications d'égalité. Elle l'achète de la sueur de son labeur non payé, de la chair émaciée de ses doigts, du sang versé sur la scène de ses combats méconnus, tout du long de son épuisant voyage à travers les étendues sauvages. Lorsqu'elle aura assez sué, assez jeûné, assez saigné, elle aussi pourra escalader le mont Pisgah. Et celles qui suivront hériteront de la victoire.
Le mont Pisgah, qui est la montagne d'où Moïse aperçut pour la première fois la terre promise, on voit bien là l'analogie. En affirmant que le capitalisme est responsable de l'oppression et de l'exploitation des femmes, est-ce que Voltairine de Clare avance là une pensée entièrement nouvelle? Alice Béja, dans quelle mesure ça défraie la chronique par rapport aux analyses produites par d'autres féministes avant elle, parce qu'il y en a eu?
Alors là-dessus, en fait, dans sa manière, donc Voltairine de Clare n'est pas une penseuse du travail. Hein. Ce qui la préoccupe principalement dans son approche de la condition des femmes, c'est la question des rapports femmes-hommes, c'est la question de ce qu'on appellerait aujourd'hui les stéréotypes de genre, etc. Néanmoins, ce qu'il est important de voir, parce que les deux sont souvent disjointes quand on parle des féministes anarchistes, féminisme et anarchisme, chez elle comme chez Emma Goldman, par exemple, sont intrinsèquement liés.
Emma Goldman, dont elle est contemporaine.
Dont elle est contemporaine, tout à fait. Et donc, en fait, ce qu'elle pointe du doigt dans ses écrits, c'est le fait que le travail a une dimension émancipatrice pour les femmes, puisqu'il leur permet de sortir du foyer, de gagner de l'argent, etc. Néanmoins, le travail tel qu'il existe dans les conditions du capitalisme ne permet pas cette émancipation, puisque les femmes sont exploitées au même titre que les hommes, et ici elle parle principalement des femmes de la classe ouvrière, mais qu'elles sont doublement exploitées, comme vous l'avez dit en introduction, puisque ensuite elles ont également la charge de famille. Et donc ce qui est important, c'est que l'émancipation ne peut advenir que par la remise en question simultanée du capitalisme et de la domination masculine. Mais l'une ne va pas sans l'autre, et c'est pour ça que, pour elle, l'indépendance économique, même si elle est très importante, ne suffit pas, puisqu'il faut aussi que les femmes puissent se défaire de la dépendance du mariage, mais aussi d'une forme de dépendance psychologique intériorisée à l'égard du rôle qui leur est assigné.
Et c'est la raison aussi pour laquelle Alice Béja, Voltairine de Clare, est assez contre l'idée d'un salaire attribué aux femmes pour les tâches domestiques qu'elles accomplissent. Elle le dit avec tout le respect que je dois aux intentions de mes amis sentimentaux. Laissez-moi dire que tout projet qui propose de payer les femmes pour qu'elles soient mères est dégradant pour elles. Donc il n'y a pas du tout cette idée de reconnaissance d'un travail ménager, domestique, en tant que femme, en tant que mère. En tout cas, pas par le salaire.
En tout cas, par le salaire, après, elle explique bien que les femmes fournissent un travail gratuit. Ça, là-dessus, elle est tout à fait d'accord sur le diagnostic, le fait que le travail reproductif et le travail d'élever les enfants, de s'occuper de la maison, etc., soit un travail qui n'est pas rémunéré et donc qui est de l'exploitation, elle en est tout à fait d'accord. La solution, lorsqu'elle aborde le sujet, elle la voit plutôt dans la collectivisation de ce travail-là, comme d'autres penseuses, d'ailleurs, y compris des penseuses plus proches du socialisme, comme Charlotte Perkins Gilman, qui est également sa contemporaine. Puisque, elle, ce qu'elle vise, de Claire, c'est la dénaturalisation des rôles de genre. Et donc, en fait, pour elle, le problème du salaire domestique, c'est qu'en fait, ça renvoie les femmes à leur alors, ce qu'on dirait aujourd'hui, à leur assignation de genre, et donc les enferme, en fait, dans ce rôle. Or, son objectif, c'est justement cette dénaturalisation, de dire que les femmes ne sont pas intrinsèquement faites pour être mères, etc. Et donc, dans un système de collectivisation de ces tâches, qu'elle appelle de ses voeux, à ce moment-là, chacune serait libre, certes, si elle veut enseigner, s'occuper des enfants, etc., de le faire, mais si elle souhaite se consacrer à d'autres choses, de le faire également. Ce que je trouve important aussi à mentionner, c'est que, voilà, Voltairine de Claire n'est pas dans une position de revendication de la possibilité pour les femmes de travailler. Ce qui était le cas d'un certain nombre de femmes de la classe moyenne de l'époque, singulièrement qui militaient dans le mouvement suffragiste, de dire, voilà, ouvrez-nous les portes des professions libérales, avocates, doctoresses, etc. De Claire, comme la plupart de ses camarades anarchistes, est tout à fait consciente qu'énormément de femmes travaillent déjà et que ça n'est pas pour ça qu'elles sont émancipées.
Ouais, elles sont déjà sorties du foyer.
Mais... Exactement. Ouais. Sauf qu'elles sont dans des usines à travailler dans des conditions lamentables qui ne leur permettent ni de gagner suffisamment d'argent, ni de s'occuper correctement de leur famille et de leurs enfants, puisque c'est ça qu'elles ont à charge, en plus de leur travail quotidien.
On en revient là à cette idée de l'exploitation qui advient de toute façon via le capitalisme, et donc au travail, à l'usine, entre autres. Alice Béja, vous avez mentionné ce que serait une société idéale pour Voltairine de Claire. Il y a cette idée de la collectivisation, presque aussi, dans ses écrits, parfois ça prend des tournures très très concrètes, là encore, la façon dont on va garder les enfants en collectif, mais dont il faut que chacun garde une chambre, ou en tout cas un espace à soi. Elle a vraiment cette vision-là. Qu'est-ce qui pourrait caractériser cette vision-là, et comment la question du travail est prise en compte dans sa société idéale ?
Alors, la société idéale, effectivement, c'est un point qu'elle aborde dans certains de ses écrits, de manière, pour le coup, plutôt utopique. C'est-à-dire que ce sont souvent, c'est notamment lorsqu'elle fait des discours en hommage aux martyrs de Haymarket, c'est aussi dans ces textes-là qu'on retrouve l'imaginaire d'une société idéale, qui est pour elle, comme pour d'autres anarchistes, une société communautaire, fondée sur l'entraide et le partage, dans laquelle on ne devrait avoir à travailler que, à un moment donné, elle le dit, 3 heures par jour. Voilà, la mécanisation et les progrès techniques permettant de réduire le nombre d'heures que chacune et chacun a à travailler. Un autre élément qui me semble intéressant, parce qu'on retrouve là une forme d'imaginaire pastoral qui est très présent dans le mouvement anarchiste, c'est que ces communautés sont le plus souvent présentées chez De Claire comme étant plutôt des communautés rurales ou semi-rurales. Elle avait elle-même un rapport très complexe à la ville, qu'elle concevait à la fois comme un espace d'émancipation, de possibilités politiques, mais également un espace très, très oppressant, elle-même souffrant de problèmes de santé assez graves qui finiront par l'emporter à 45 ans. Elle a quand même un imaginaire de la nature qui fait que, pour elle, voilà, les ouvriers et ouvrières harassés ne pourraient s'épanouir que, et leurs enfants, que dans un environnement naturel.
On a beaucoup parlé, parce que c'était important de remettre ses bases sur le tapis, on a beaucoup parlé de sa première, on va dire, de sa façon de conceptualiser tôt dans sa vie son rapport à l'anarchisme. Un peu plus tard, et aussi parce que le contexte économique change, notamment à partir du début du XXe siècle, à partir de 1907, où il y a beaucoup de fermetures d'usines, son rapport aussi à l'action plus directe, les grèves, le syndicalisme change. Elle va contribuer à structurer aussi le mouvement anarchiste à Philadelphie, où elle vit, qui, dans un état de Pennsylvanie qui est très industriel. Voltairine de Claire, c'est aussi cela. Mais merci infiniment, Alice Béja, de nous avoir aidé à comprendre sa vision du travail en tant que féministe. Et je renvoie évidemment les auditeurs et les auditrices à votre ouvrage Voltairine de Claire, anarchisme, féminisme et amour libre, paru aux éditions de l'Atelier en mars 2025, où il y a la pensée de Voltairine de Claire en long, large et travers et de façon tout à fait complète. Mais restez avec nous, car tout de suite on retrouve l'économiste Alexandra Roulet qui nous parle aujourd'hui de retraite et réforme dans le fil de l'écho.
Le fil écho.
Le sujet des retraites n'est pas prêt d'être derrière nous. Le système de retraite comporte énormément de paramètres. Le nombre de trimestres, l'âge légal de départ, l'âge d'annulation de la décote, les modalités de départ pour les carrières longues, pour l'inaptitude, pour les femmes, etc. Donc les modalités de la réforme de 2023 peuvent tout à fait être discutées, ajustées. En revanche, d'un point de vue économique, ce qui est clair, c'est qu'on ne peut pas, de façon durable, ne rien faire. La nécessité d'une réforme des retraites est double. D'abord, il y a bien sûr la soutenabilité du système de retraite. Mais ce déficit fait toujours l'objet de débats, parce que sa valeur exacte dépend fortement des hypothèses de fécondité, de solde migratoire, d'espérance de vie, de productivité, de taux de chômage, etc. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que les dernières projections officielles, par exemple du Conseil d'orientation des retraites, le COR, en juin dernier, intègrent la réforme de 2023. Donc, ce qui est sûr, c'est que sans cette réforme, le déficit serait encore plus important. Mais au-delà de ces discussions parfois techniques sur les projections du solde financier, il me semble qu'il y a une deuxième justification à une réforme des retraites. En France, lorsqu'on additionne toutes les heures travaillées par les Français et qu'on rapporte cela au nombre d'habitants, on a un chiffre beaucoup plus faible que dans d'autres pays. Or, cela est principalement dû au fait que nous avons moins de seniors, définis comme les plus de 60 ans, en emploi que dans les autres pays. Donc, la marge pour augmenter notre quantité de travail dans notre économie, c'est d'augmenter le taux d'emploi des seniors. Cela permettrait d'avoir plus de cotisations, mais aussi plus de revenus plus généralement, et donc plus de recettes fiscales, y compris impôts sur le revenu, TVA, etc., pour financer nos priorités comme la défense, le climat, l'éducation. C'est la justification macroéconomique d'une réforme des retraites. Parce qu'on sait que le seul facteur qui fait vraiment augmenter le taux d'emploi des seniors, ce sont les réformes des retraites qui, d'une façon ou d'une autre, décalent l'âge de départ moyen. Et encore une fois, dire qu'il faut faire en sorte que les gens partent à la retraite un peu plus tard ne veut pas du tout dire qu'il n'y a pas de marge de manœuvre pour discuter ou amender la réforme de 2023. On peut arriver à ce même objectif avec différentes combinaisons de paramètres. Mais on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de sujet sur les retraites.
Merci beaucoup Alexandra pour vous réécouter. C'est sur l'application Radio France que ça se passe et je vous dis à la semaine prochaine.